Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 16 janvier 87, Rimont.
La paternité. sacerdoce, étant le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est donc le sacerdoce qui permet à la paternité du Père d'être Père. C'est peut-être ce qu'il y a de plus secret dans le sacerdoce de Jésus, qui se dévoile dans la lutte, vous voyez. C'est pour ça que ce chapitre 8 est si important. Parce que c'est net que c'est le paroxysme de la lutte. Et dans le paroxysme de la lutte, nous est révélé l'importance de la paternité, de l'exercice de la paternité à travers du Père sur le Fils bien-aimé et de Jésus sur nous. Et c'est ce lien, si vous voulez, le plus fort qui se réalise avec Jésus et avec lui et par lui avec le Père. C'est vrai ce que dit saint Thomas, que ce qu'il y a de plus ultime dans l'action de l'Esprit Saint en nous, c'est de nous faire dire Père, Abba Pater, c'est de nous donner l'expérience interne de la paternité sur nous pour être des fils bien-aimés, pour être ceux en qui le Père met toutes ses complaisances, pour devenir le repos du Père. Que le Fils seul peut être le repos du Père. S'il glorifie le Père, il est le repos du Père en le glorifiant. Si vraiment cette action de l'Esprit Saint en nous touche le sommet, ce qu'il y a de plus profond, on comprend très bien comment le sacerdoce du Fils bien-aimé consiste à être le héros de cette paternité, à tout mettre en cause pour que cette paternité puisse se réaliser pleinement et totalement. Et cette paternité se réalise à travers le sacerdoce de Jésus. Pour qu'il puisse du reste se réaliser pleinement et totalement. Et cette paternité lutte contre la fausse paternité du démon. Contre l'apparence de paternité, et qui est une fausse paternité puisqu'il ne communique pas la vie, et que le démon veut accaparer de cette manière. Le démon n'a pas d'autorité, il n'a qu'un pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. Quand vous ne comprenez plus très bien la distinction entre autorité et pouvoir, vous n'avez qu'à penser à Lucifer. Le démon n'a aucune autorité sur vous, mais il a un grand pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lui obéir. Parce qu'il a un grand pouvoir tyrannique. Il essaie par tous les moyens de nous tyranniser. Surtout au moment où on doit lui échapper. Il rôde spécialement au moment des professions. Alors il tourne autour de mille façons. Parce que dans la profession, justement, on glorifie le Père en voulant devenir un fils bien-aimé. C'est ça la chose la plus grande de la profession. C'est de vouloir devenir un fils bien-aimé. Donc glorifier le Père et glorifier Jésus dans sa paternité sacerdotale sur nous. Et alors le démon essaie par tous les moyens de diminuer ça. Parce qu'il veut être Père. Et je crois que c'est ce que nous voyons dans ce chapitre 8. Alors ça nous permet de comprendre que l'action propre du discernement sacerdotal, c'est de bien voir ce qui est dans la ligne du sacerdoce du Fils bien-aimé pour glorifier le Père et pour permettre au Père d'exercer sa paternité. Et le démon rival de cette paternité, parce qu'il est vraiment rival de cette paternité, en voulant se mettre à la place. Alors, le dernier mot de ce chapitre 8, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. été la femme adultère. Parce que Jésus a pardonné à cette femme, du moins a pardonné la faute de cette femme, et a obligé ceux qui la condamnaient de disparaître. Ces pierres se retournent contre Jésus. Alors ça, ce serait aussi très important à bien comprendre, au point de vue action sacerdotale. C'est normal lorsque vous faites une œuvre de miséricorde et que vous permettez que quelqu'un ne soit pas lapidé. Ça peut arriver. Surtout lapidé spirituellement. Ça vous retombera sur la tête. Fatalement. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est très rassurant. Faire une œuvre de miséricorde et donc empêcher que quelqu'un soit puni, c'est nécessairement se mettre à sa place. Et donc c'est accepter par avance de recevoir les pierres. À qui on a pardonné. Ça, je crois que ça fait partie du mystère du sacerdoce. Il fait comprendre que le prêtre, s'il pardonne, prend la place de celui qui l'a pardonné et accepte sa culpabilité. C'est, je crois, l'ultime aspect de la miséricorde. Quand on pardonne à quelqu'un, on accepte de prendre sa place, d'être condamné à la place de celui à qui on a pardonné. Donc qu'on ne s'étonne pas si les pierres qui étaient destinées à le lapider vous retombent sur vous.
Je suis la lumière du monde. Donc, il fait œuvre de sa sœur.
mental en discernant le désir du démon d'être père. Il fait œuvre sacerdotale en faisant le discernement. Nous allons voir maintenant de l'origine du mal. D'où vient le mal? Et aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, l'œuvre du père, l'œuvre du prêtre doit être ce discernement. Pour supprimer le scandale. Pour supprimer l'attitude de beaucoup en face du mal qui s'étale de quitter l'église. Alors l'œuvre du prêtre doit donner l'intelligence. comment il se sert de cette infirmité pour réaliser une œuvre nouvelle, une sorte de petite résurrection. Il y a la résurrection de Lazare plus tard, et puis la résurrection de cet aveugle de naissance. une obéissance extraordinaire à l'intérieur de la miséricorde pour coopérer. C'est l'obéissance des serviteurs, c'est l'obéissance des enfants. Et Jésus ne donne aucune explication. Et on voit que le miracle s'opère. Celui-ci s'en alla donc et se lava et il vint voyant. C'est pas au moment où Jésus fait la boue avec sa salive que se produit le miracle. Il se produit du fait même qu'il a accepté d'aller à la piscine de Siloé. Qu'il a accepté ce que Jésus lui demandait de faire, se montrer au prêtre. Les voisins donc, et ceux qui l'avaient vu auparavant, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et mendiait ? D'autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, nullement. Alors, cette chose curieuse, hein, dans l'évangile de Saint Jean, on l'a déjà vu plus d'une fois, ces herméneutiques que Jean garde, c'est pas pour rien, rien n'est indifférent dans l'écriture. Alors, pourquoi Jean garde-t-il ça ? Ça n'a rien à faire avec la parole de Jésus. C'est la manière dont les hommes sont si peu réceptifs. Ça fait partie de la philosophie du réalisme, ça, vous voyez. La manière dont les hommes sont si peu réalistes. Toutes les interprétations imaginatives.
Et celui qui parle avec
toi, c'est lui. Il déclara, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, c'est pour un jugement que moi je suis venu en ce monde. Voyez bien, Jésus lui-même déclare pourquoi est-il venu en ce monde. Donc Jésus lui-même montre la finalité. Que le prêtre doit avoir comme prêtre. rêve de prêtre. Les païens peuvent en faire la même chose. Tandis qu'il y a quelque chose qui est propre au prêtre, c'est de saisir ce discernement. Je crois que c'est ça qui nous est montré là, par rapport au sacerdoce de Jésus. Et ce point de vue-là, c'est très grand. Parce que ça, c'est quand même le prêtre face au mal. Le prêtre face à la mort. Tout le temps, et c'est vrai, le prêtre face à la mort, parce que sûrement que le prêtre est parmi les hommes, un de ceux qui s'approchent le plus de la mort. Parmi les hommes, c'est un de ceux qui s'approchent le plus de la souffrance et de la douleur. Ordinairement, c'est comme ça. Les gens redeviennent pieux lorsqu'ils souffrent, ou bien ils sont révoltés. L'aspect indifférent, qui est l'aspect le plus terrible, c'est pas réveiller la souffrance. Et alors, c'est en face de la souffrance, en face de la mort, en face de la souffrance, que le prêtre doit être présent. Ça supprime, vous voyez, la présence du prêtre au moment de la mort. C'est terrible, ça. C'est un non-sens complet. Supprimer la présence du prêtre auprès des malades, auprès de ceux qui souffrent, c'est supprimer tout un aspect profond du prêtre, auprès des infirmes, auprès des handicapés. C'est supprimer un grand aspect du sacerdoce de Jésus. Et on les livre à ce moment-là aux psychologues. Les psychologues, on sait très bien, donnent des explications du mal, on sait très bien les explications qu'ils peuvent donner. Et alors, l'explication divine, prise par la finalité, qui est la seule que Jésus peut donner, et qui est la seule que le prêtre peut donner, en tant que prêtre, aussi bien le sacerdoce royal des fidèles que le sacerdoce ministériel, hein. Le sacerdoce royal des fidèles, Marie dans sa compagnon donne, dans sa compassion donne le sens d'un discernement par rapport au mal. Et quelquefois, la femme chrétienne liée à Marie le donne encore mieux. La présence de la femme consacrée à Dieu auprès des malades, auprès des mourants, auprès des handicapés, doit être dans ce sens du sacerdoce du Christ. Rappeler et faire comprendre que si Dieu permet et si Dieu veut cela, tel mal, aveugle de naissance, aveugle de naissance sert de modèle. Et on comprend très bien, c'est quelque chose de très très grand et de terrible. Pour que on saisisse ça, je crois que c'est très important ça. Au-delà de tout, herméneutique. C'est peut-être, parce que c'est curieux, que c'est le lieu où l'herméneutique est le plus développée. Vous avez là une théologie de l'herméneutique qui est extraordinaire, parce que vous avez des milieux différents. Vous avez les juifs, le milieu religieux, vous avez le milieu des parents, et vous avez lui-même trois milieux. Et on voit les traits des trois herméneutiques. C'est pas étonnant parce que c'est à l'égard du mal qu'on est le plus incapable d'expliquer. Et quand il n'y a pas d'explication, on essaie de s'en tirer comme on peut. Et chacun tire de son côté. Vous savez bien, saint Thomas dit qu'il n'y a pas de cause propre du mal. Alors il n'y a qu'une cause finale. Et nous cherchons les causes propres, tout le temps. Et au fond, l'herméneutique, elle naît à partir de là, c'est curieux. L'herméneutique, elle veut expliquer le mal, elle veut expliquer l'erreur. Le psychanalyste veut expliquer les bêtises et les erreurs. Et l'exégète veut expliquer les erreurs. Les choses incompréhensibles qu'il ne comprend pas dans l'écriture. Pourquoi il y a telle contradiction dans l'écriture? Alors on essaie d'expliquer. Et on n'accepte pas l'action directe de Dieu. Et on ne voit pas l'action directe de Dieu. C'est très curieux, ça. Et je crois que ça jouit. Et ça, je crois que c'est une des... C'est quelque chose de très grand par rapport au sacerdoce de Jésus. Hein. Parce que c'est propre au sacerdoce du Fils bien-aimé. Il faut avoir un sens très très grand de l'amour. Et donc, de ce lien de Fils à l'égard du Père.
Ça, c'est ce chapitre 9.
vie très, très éminent, ça. Encore une fois, j'insiste, l'œuvre du prêtre, c'est-à-dire du sacerdoce du Christ, qui se fait selon deux modalités, la modalité du sacerdoce ministériel et la modalité de... Alors, c'est important parce que c'est peut-être l'action la plus grande au point de vue sacerdotal. Je dis bien, c'est peut-être l'action la plus grande. Parce que c'est une œuvre de sagesse, de discernement. Et de voir que cette œuvre est commune au sacerdoce ministériel comme au sacerdoce royal des fidèles. Elle est commune des deux côtés. Les deux doivent le faire. Parce que c'est la plus grande miséricorde que de donner un sens positif à tous ces aspects négatifs dont on souffre tant et qui nous affligent. Leur donner un sens positif. Donc il faut beaucoup réfléchir à ça pour discerner ça. Et le chapitre 10 vient compléter d'une autre manière. Et on voit que le sacerdoce royal des fidèles, comme le sacerdoce ministériel, implique de fait ce point de vue du gouvernement. À l'égard de ceux que Dieu met sur notre route. Parce que dans l'ordre sacerdotal chrétien, personne ne peut nous être indifférent. Il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Donc tous ceux que nous rencontrons, nous sommes responsables de diverses manières, mais nous en sommes responsables. Et dès qu'on détecte en eux une misère, il faut comprendre que cette misère, c'est pour que en cette personne soient manifestées les œuvres de Dieu. On en est loin, il faut bien le reconnaître. On trahit tout le temps le sacerdoce du Christ. Parce que c'est trahir le sacerdoce du Christ que passer indifférent, ou de dire ça ne m'occupe pas, moi je suis spécialisé pour les aveugles, et lui il est sourd, alors je ne m'en occupe pas. C'est comme ça qu'on fait, non ? Je suis spécialisé pour ça, alors les sourds, laisse tranquille. Je suis spécialisé pour les handicapés, je ne suis pas spécialisé pour les cancéreux. On a beaucoup de peine de regarder toute misère, et comprendre que il n'y a pas de spécialisation dans le mal. C'est la sociologie qui se spécialise dans le mal, mais pas la miséricorde. Le mal, c'est le mal. On ne peut pas se spécialiser. Spécialiser dans le mal, c'est regarder une cause propre. Alors on spécialiserait dans le mal. Je me spécialise pour tel malheur. C'est pour ça que la médecine, quand elle se spécialise, tout tue la médecine. Parce qu'on ne peut pas se spécialiser. C'est une erreur. Découvrir la cause propre. On ne peut pas. On peut comprendre pourquoi il y a ça en vue de la finalité. Alors, on verra le chapitre 10.